France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « De la terre promise au règne de Dieu », qui est le titre d'un ouvrage paru en 2024 aux éditions du Cerf et dont l'auteur, Georges Hellage, est avec nous pour en parler. Georges, bonjour.
Bonjour, Alexis Chrysostalis.
Vous êtes actuellement enseignant en théologie à l'Institut catholique de Paris et ce livre est issu de votre thèse de doctorat soutenue en 2023 conjointement aux facultés jésuites de Paris et à Sorbonne Université. Nous commencerons par commenter le titre « De la terre promise au règne de Dieu » ainsi que le sous-titre de cet ouvrage « La pensée politique d'Origène ».
Cet ouvrage s'appuie sur ma recherche qui a essayé d'exprimer une pensée en mouvement. Dans ce livre, il y a au moins deux mouvements. Un mouvement qui va du sens historique des Écritures saintes vers le sens spirituel, et après, du sens spirituel des Écritures vers le sens moral. Ces deux mouvements sont fidèles à la pensée et la méthode exégétique d'Origène. Cet auteur chrétien s'est appuyé sur la pensée hellénistique de l'époque pour appliquer une écriture allégorique au texte biblique. Donc il passe tout le temps du sens historique vers la signification spirituelle et il déduit de la signification spirituelle un sens moral et un agir des chrétiens dans la cité.
On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, Origène, qui est-il? Évidemment, c'est un grand, très grand nom dans l'histoire du christianisme. D'où vient-il? Que fait-il dans sa vie? Qu'est-ce qu'il nous a surtout laissé?
Origène est né vers l'an 185 et il est mort en 253 environ. Il est né à Alexandrie. Alexandrie était à l'époque un grand carrefour, le carrefour des idées, le carrefour des cultures, où la pensée chrétienne s'exprimait à côté de la pensée juive et la pensée grecque. Et c'est un chrétien né dans une famille chrétienne, fils de martyr. Son père a témoigné de son attachement au Christ jusqu'au martyr. Et Origène était habité par un enthousiasme. Il a même écrit « Exhortation au martyr ». Ce jeune homme, pour servir sa famille et son église, a été obligé de vendre sa bibliothèque et d'enseigner la grammaire. Donc, il est bien formé, il a reçu à la fois une très bonne éducation chrétienne et une très bonne éducation classique. Après cette période de persécution, il a repris l'école catéchétique à Alexandrie et il a écrit la première synthèse théologique appelée le traité des principes, lorsqu'il était à Alexandrie. Il a voulu reprendre la forme des traités philosophiques en parlant de la nature de Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit. C'est sa première partie alexandrine. Vers l'an 230, il est allé vivre à Césarée de Palestine et il a une deuxième partie, donc palestinienne si on peut dire. Là-bas, il a rencontré l'exégèse juive, il a déplacé sa bibliothèque et il a rencontré l'église locale, il a continué à prêcher et malheureusement, il a été persécuté. Il est décédé à Tyr, selon la tradition relatée par Eusèbe de Césarée, vers l'an 253 ou 254. Il est à la fois un grand orateur, un exégète et si on se permet, on peut dire qu'il est aussi un philosophe et un confesseur de la foi.
Et en même temps, un grand éditeur. Hein. C'est la formation classique qu'il avait reçue, et puis évidemment son rôle dans la bibliothèque, a été très important. N'oublions pas qu'on lui doit cette édition critique qu'on a appelée les Exaples, hein, avec les six colonnes fameuses, le texte hébreu écrit en grec, puis quatre colonnes avec les différentes traductions de grec de l'Ancien Testament. Peut-être le plus grand éditeur de textes dans l'histoire du christianisme. Nous n'avons que des petits bouts de ça, Mais donc, un savant, il faut dire, un savant. Et d'ailleurs, la bibliothèque dont vous parliez tout à l'heure, Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, se prévaut tout à fait de la tradition et de la descendance, si je puis dire, spirituelle d'Origène. Hein. Donc, quelqu'un qui compte beaucoup. Alors, on va en venir maintenant à votre thèse pour comprendre un peu quel est votre travail, quel est l'objectif de la thèse. Vous avez dit en deux mots, votre livre, vous l'organisez en 7 parties. Si vous voulez les énumérer, vous le faites très bien d'ailleurs vous-même dans la, au début et à la conclusion de votre travail. Et vous divisez ce travail, en, si je puis dire, si j'ai bien compris, en vous lisant en 2 grandes parties. Une première avec les 6 parties et une deuxième avec la 7e qui est particulière. On va y revenir. Pourquoi cette organisation et quelle est cette organisation déjà?
Déjà, je voulais étudier chez Origène sa compréhension de l'Ancien Testament. Et il a vécu dans une société plurielle. Je voulais comprendre le sens qu'il accorde au peuple de Dieu, à la terre promise et à la loi divine. Comme il dépasse le sens littéral vers un sens spirituel, on a vu aussi que son exégèse, sa manière de lire les Écritures, a des conséquences politiques sur sa pensée, sur son comportement de citoyen. J'ai commencé à mettre la base de cette recherche en étudiant le don d'une descendance. Pourquoi Dieu donne à un peuple une terre? Comment Dieu offre ou promet la terre promise, la descendance et la loi? Et ce travail montre comment Dieu est en dialogue avec ses bien-aimés et comment la promesse et le don, que ce soit d'une descendance ou d'une terre, est un don gratuit de Dieu qui ne dépend pas des mérites des hommes parce qu'ils sont déjà bien-aimés avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Après ces explications exégétiques, la deuxième partie de la thèse qui traite du comportement des chrétiens dans la société, s'appuie sur la pensée d'Origène. Et le dernier chapitre, donc le chapitre 7, est un changement épistémologique. J'ai tiré des conclusions à partir de l'enseignement d'Origène pour notre société aujourd'hui.
Avant de revenir au travail, il faut dire aussi que Origène, comme nous avons dit, est un esprit extrêmement fécond, extrêmement productif. Il a énormément écrit, c'est un très grand exégète, comme vous dites. Et ce premier traité, le fameux Périarchon, dont nous n'avons que des bouts dans la version originale, a été condamné. Alors, a été condamné longtemps après la mort d'Origène, 3 siècles plus tard, au concile de 553. Pourquoi? Parce que peut-être la réception a créé des problèmes. C'est ce qu'on appelle l'origénisme. Alors, il faut dire un mot sur l'origénisme pour comprendre ce qui a conduit à la condamnation d'une partie, en tout cas, de son œuvre.
Origène est un auteur polémique. Déjà, de sa vie, pendant son service, sa mission, il a eu déjà des problèmes avec ses contemporains. C'est une des caractéristiques des grands esprits. On ne peut pas plaire à tout le monde et on est parfois mal compris. Ce qui s'est passé, c'est qu'Origène s'est exprimé selon les règles et selon les expressions de son temps. Dans son traité des principes, Périarchon, il a dit « Je commence le travail, mais c'est aux autres de le terminer, de le prolonger. » Et il présente une théologie à la fois en mouvement et en recherche. 3 siècles après sa mort, le contexte a changé, le contexte intellectuels et politiques ont changé et à la fois il y a eu des disputes sur des idées qui ont été poussées à l'extrême. L'idée par exemple de la préexistence des âmes ou l'apocatastase, donc le retour à l'état initial du monde, ont été utilisées d'une manière excessive par certains moines ou certains disciples qui se revendiquaient d'Origène et le débat concernait l'imagination de Dieu, comment on imagine Dieu, comment on imagine la résurrection, comment on imagine les corps des ressuscités, d'une manière sphérique ou pas. Et c'est un débat qui concerne à la fois la science et la philosophie de l'époque. je comprends qu'il soit condamné en 553, mais son autorité a été prolongée par les pères cappadociens, par d'autres théologiens. Il reste le père de l'exégèse chrétienne et il reste un grand inspirateur du dialogue entre l'expression théologique et l'expression philosophique.
Un vrai docteur de l'Église. Pause maintenant pour aller dans l'Église et ce sera avec un office de la Semaine Sainte, un exapostillaire du Vendredi Saint, par la chorale Saint-Jean d'Amasène sous la direction de Serge Sauret. Et après cet exapostillaire du Vendredi Saint par la chorale Saint-Jean d'Amasène sous la direction de Serge Sauret, nous revenons à notre entretien avec Georges Hellage sur son livre, qui est en fait le prolongement de sa thèse de doctorat, « De la terre promise au règne de Dieu, la pensée politique d'Origène », livre paru au CERF. Cher Georges, on va maintenant se concentrer sur la partie 7 de votre livre, qui est en fait celle qui nous ramène à l'actualité. Vous avez très bien expliqué ça. Origène, un grand docteur de l'Église, on est au 3e siècle, cette richesse de pensée, cette incroyable productivité en matière d'exégèse, cet éditeur incomparable, etc. Qu'y a-t-il d'actuel ?
Avant tout, j'aimerais éviter toute absolutisation de la pensée d'Origène. Je ne veux en aucun cas projeter ce qu'il a fait au IIIe siècle, mot à mot, aujourd'hui. Mais nous pouvons nous inspirer de ce qu'il a fait. Dans mes cours, je dis toujours à mes étudiants que la tradition est finalement comme un héritage. Mon grand-père avait une grande richesse en francs français. Aujourd'hui, je suis obligé de l'échanger en euros pour pouvoir l'utiliser. La pensée des pères de l'Église, c'est la tradition aussi de l'Église. Elle nous invite à changer notre comportement aujourd'hui. Origène, qui était un chrétien dans une société plurielle à Alexandrie, un chrétien qui a subi les persécutions, son père est mort martyr, lui-même il est mort persécuté comme confesseur de la foi, n'a pas poussé pour un régime chrétien. Il a accepté la sanctification sans pousser à la confrontation politique ou sans imposer un État chrétien. À l'époque, avant la paix constantinienne, ces chrétiens étaient capables de prier pour la paix, de respecter l'autonomie de la politique sans imposer un régime chrétien. Aujourd'hui, après la chute des empires chrétiens, nous pouvons nous inspirer de la pensée d'Origène, de la réalité de ces chrétiens dans l'Antiquité tardive, pour dire la sainteté peut se vivre dans une société ouverte et plurielle. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que je voulais tirer, c'était combattre la peur dans la société. tout le monde a peur de tout le monde. Or, c'est un mensonge politique. Origène nous invite à une confiance en l'autre. On peut parler avec l'autre citoyen sans avoir peur. Si le chrétien a peur, et le païen a peur, et le juif a peur, et le musulman a peur, et chacun de nous a peur, c'est que cette peur vient de nulle part où elle habite la terre promise de chacun de nous. Origène veut que la conquête de la terre promise soit la conquête de notre cœur. Il faut libérer nos cœurs, il faut libérer nos terres promises de cette peur pour l'ouvrir à la rencontre de l'autre. Une troisième leçon, c'est le refus du nationalisme religieux. Donc, c'est refuser qu'un peuple ait une religion imposée. Pourquoi ? Parce que l'opposition politique dans un régime de nationalisme religieux devient une opposition à Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec le gouverneur, et donc vous n'êtes plus d'accord avec la religion du gouverneur, vous devenez l'ennemi de Dieu. Aujourd'hui, dans des sociétés démocratiques, européennes et plurielles, on a dépassé ce problème depuis longtemps. Origène vient nous dire que c'était possible déjà au IIIe siècle, lorsque les chrétiens disaient à l'empereur « On prie pour que vous puissiez servir la justice et la paix, mais nous ne pouvons pas vous accepter comme le seul Dieu de la société. »
Bon, évidemment, Origène vit, il faut le redire, à l'époque de la gloire de l'Empire romain. Il y a une religion officielle qui est une religion païenne, et que le christianisme soit survit comme il peut, soit il est persécuté. Donc c'est très différent de ce qui a suivi dans l'histoire, déjà à partir du IVe siècle. Mais est-ce que vous trouvez que son époque a quelque chose de proche de la nôtre ?
Malheureusement, il y a certaines difficultés dans son époque qui se répètent aujourd'hui. Aujourd'hui, certains chrétiens se retrouvent persécutés et ils ne savent pas comment se positionner dans leur société. Il y a d'autres qui se trouvent de l'autre côté. Ils se trouvent persécuteurs. Il y a des guerres aujourd'hui qui prennent pour prétexte la foi. Or, Origène nous rappelle qu'on ne peut pas porter les armes pour tuer l'autre au nom de Dieu. Ce livre, cet ouvrage, est un appel à la paix qui vient d'en haut et non pas à la guerre qui ne peut en aucun cas être ni juste ni sainte. C'est un refus de la guerre sainte sans refuser les réalités de notre vie. Donc la guerre est une réalité, mais qui n'est pas une réalité divine. C'est une réalité qu'il faut essayer de limiter ou bien de dépasser.
Faut-il rappeler, cher Georges Elage, que vous êtes vous-même originaire de la région très proche de là où Origène a vécu la deuxième partie de sa vie, en tout cas, hein. Et vous venez du Liban, et donc une région qui malheureusement est terriblement concernée par ces problèmes et ces oppositions, très souvent présentées comme des oppositions religieuses, et où la religion est prise comme prétexte pour attaquer l'autre. Et donc évidemment cette sensibilité est certainement également pour quelque chose dans votre pensée qui est très très féconde. Et donc c'était cette partie de notre émission consacrée à votre ouvrage de la Terre promise au règne de Dieu. Je voudrais pour terminer parler un peu d'une autre activité que vous avez. Vous êtes président de Syndesmos. Alors il faut parler un peu de Syndesmos et de son travail.
Syndesmos est un mot grec qui veut dire le lien d'amour. Et ce lien d'amour reflète les liens entre la jeunesse orthodoxe depuis les années 50 du siècle dernier. Des étudiants, de jeunes théologiens qui étudiaient à Paris se sont rencontrés à une époque où les églises ne se parlaient pas, à un moment où il y avait encore le rideau de fer, mais les jeunes étudiants pouvaient se rencontrer à Paris autour de la théologie. Ils ont décidé de rendre service à leurs églises en se rencontrant. Et la rencontre, le lien d'amour entre des chrétiens qui venaient de l'Est, de l'Ouest, qui étaient de la Roumanie, de la Finlande, de la Syrie, du Liban, de la France, de la Russie, de la Grèce, était une mission qui dépasse le nationalisme, qui dépasse le repli identitaire de chacun, parce que la communion dépasse les identités politiques. C'était une union en Christ, une fraternité, une amitié qui s'est mise au service de l'Église et de sa mission. De grandes figures comme Mgr Anastasios Yanoulatos, comme Mgr George Rodre, comme le père John Meindorf, ont servi Syndesmos et ont servi l'Église par Syndesmos et à travers Syndesmos.
Et vous portez cette tradition maintenant à votre tour, qui est lourde évidemment, mais parce que vous avez parlé de très grands noms du monde orthodoxe, mais je vous souhaite évidemment, et à Syndesmos surtout, qui tire son nom évidemment d'un verset de Paul, hein, c'est ça, c'est Éphésiens. C'est ça, le lien d'amour. Et Georges Elage, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « De la terre promise au règne de Dieu, la pensée politique d'Origène » au CERF 2024. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Nadège Antonini. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, avec Jean-Luc Gadreau.